RMC, PLM et tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là, oh, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Le Super Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes, je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh mon Dieu, bordel de merde, c'est bon, bordel.
Nicolas Villas.
Avec vous, on est ensemble jusqu'à minuit. After exceptionnel en ce samedi avec Prince Ali. Non, c'est pas ça. Benarbia. Voilà, petite dédicace à Jonathan McCarthy qui nous écoute.
C'est ça.
Non, c'est pas ça.
Bonsoir.
C'est vrai qu'il t'imitait bien hier, Jonathan McCarthy. Avec nous ce soir, c'est sa première dans l'after, Sébastien Piocel.
Bonsoir, messieurs.
Ça va, Seb?
Bonsoir, très bien.
Écoute, sois le bienvenu.
Je suis très bien.
T'es en mode stagiaire hein, ce soir.
D'accord.
Mais t'es pas
tenir
seul.
À carreau.
Exactement. Mais t'es pas le seul. Ah. Alors lui, hey, on vous l'a saucé, mais tout au là, César, bien entendu, notre community manager. On vous avait promis qu'il serait là, qu'il participerait à l'émission avec nous. Vous vous branchez pour BFM Sport. Mais quelle beauté. Mais que tu es joli. Bah, Laurent écoute, Fala. Bonsoir, Laurent.
J'ai fait honneur à l'émission.
C'est vrai?
Bonsoir.
Alors, soi-disant, il y a une cavale contre lui. T'es au courant de cette histoire?
Bah, d'habitude, il est pas habillé comme ça. Et là, ce soir, je sais
d'habitude,
pas ce qui s'est passé. Il est magnifique.
Il se balade tout nu dans les locaux.
Il a mis des couleurs que j'aime.
Je suis le Kirikou d'RMC.
N'importe quoi.
Oh. Oui,
n'importe c'est quoi. Ça y est, fais-nous tenir des propos qu'on n'a jamais tenus. Ali a fait bien pire que ça, vous le savez, bien entendu. After jusqu'à minuit, pas de Ligue 1 ce soir, mais demain, énorme journée. La course au podium, la course à l'Europe, la course au maintien. Qu'est-ce qui vous excite le plus? La question a été posée sur le compte Twitter de l'After par Laurent Fala. On évoquera le Classico de demain avec Fred Hermel, les derniers chocs de Serie A avec Simone Rovera. Il y a le Derby de Lisbonne qui se joue au Portugal également, match qui est sur SFR Sport 2. Il y a 0-0 toujours hein, entre les deux équipes. Avec ce résultat, le FC Porto est sacré champion du Portugal dès ce soir. Juste avant de démarrer cette émission, je sais que ça te tenait à cœur également, Sébastien, toi qui as joué au Sporting Club de Bastia entre 2001 et 2005. Aujourd'hui, c'est le 5 mai, ça fait 26 ans qu'a eu lieu la catastrophe de Furiani qui a fait 18 victimes. Il n'y a pas de match aujourd'hui en France. Alors, c'est une décision qui avait été prise après des années de combat du collectif des victimes. Lorsque le 5 mai tombe un samedi, alors c'est un peu bizarre, il n'y a pas de match. Alors voilà, ça arrivait aujourd'hui, donc il n'y a pas eu de match aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommages qui ont été rendus à Bastia, notamment en hommage aux victimes et aux familles des disparus. Je sais que ça te tenait à cœur également de rendre hommage aux victimes, toi qui as joué au Sporting, Seb.
Oui, c'est vrai qu'il faut avoir habité ou joué à Bastia pour vraiment comprendre ce qui s'est passé réellement hein, ce jour-là. C'est terrible parce que là on parle de 18 victimes, mais c'est tout un peuple qui a été touché parce que Bastia, la Corse,
aussi.
Oui, Bastia, la Corse, c'est un grand village. On est quasiment tous supporters du Sporting, et dans ces victimes-là, il y avait le cousin, le frère, l'ami, et c'est terrible. Et c'est vrai, ne pas jouer le 5 mai, c'est la moindre des choses. Après que ce soit quand ça tombe à samedi, il y a eu du mieux. Alors, c'est vrai, on le dit souvent depuis que Kyriez est parti, ça va mieux. Mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire parce que c'était vraiment terrible pour le peuple corse.
Ouais, on a tous un souvenir. Hein. Enfin, tout le monde se souvient, je pense. Malheureusement, c'est souvent comme ça quand il y a des catastrophes. Ce qu'ils faisaient ce jour-là, hein, avant cette demi-finale il y a 26 ans face à Marseille. Hein. Tu te souviens, Ali, je suppose?
J'étais devant la télé.
Ouais, moi
j'étais
aussi.
En train de regarder ce match qui devait être très chaleureux et impressionnant avec autant d'engouement pour le club Bastier. Et d'avoir cette catastrophe, je crois qu'il y a tout qui s'est effondré. Hein. Et c'est vraiment dommageable parce que tout le monde attendait ce match un petit peu. Le gros, ouais, c'était Monaco contre Bastia.
C'était l'OM.
C'était l'OM, pas Monaco. Ouais.
C'était l'OM, c'était le grand OM.
Ouais,
c'était
exactement,
le grand OM. Et puis, encore une fois, pour les mauvaises choses, pour l'argent, finalement. Mmh, le fait
pareil.
De vouloir absolument faire un stade énorme.
Ouais, et puis des tribunes, elle avait vite monté.
Non, et puis attends.
Et si on relit comment ça s'est passé, c'est abominable.
En tout cas, voilà, nous on voulait débuter cet after en rendant hommage justement aux victimes de Furiani. Et voilà, une grosse pensée pour toutes les familles et pour le Sporting également qui a été particulièrement touché, tu l'as dit. C'est vrai qu'en Corse, pour ceux qui y vont, on le sait, c'est un vrai symbole, le Sporting Club de Bastia. Le foot qui reprendra demain, la 36e journée de Ligue 1 qui se jouera demain, alors qu'il y avait démarré démarré hier avec le 2-2 entre Amiens et le Paris Saint-Germain. Alors ça se joue sur trois fronts. Demain, finalement, il y a qu'un match qui sert à rien entre guillemets, c'est le Dijon-Guingamp. Sinon, tous les matchs ont un enjeu. Demain, il y a Saint-Étienne-Bordeaux, ça c'est pour l'Europe.
À des horaires différents.
Exactement, ça se fera à 15h, à 16h30. Il y a Lyon 3. Alors là, il y a un club qui joue le podium, il y a un club qui joue le maintien. Il y a Caen-Monaco à 17h, il y a un club qui joue le maintien, un club qui joue le podium. Il y a le fameux Dijon-Guingamp également à la même heure. Il y a Metz-Angers, un club qui joue le maintien, c'est Metz. Il y a Nantes-Montpellier, deux clubs qui jouent l'Europe, même si ça paraît peu probable. Mm-hmm. Ça c'est aussi, c'est une affiche de 17h. Il y a Rennes-Strasbourg, un club qui joue la Ligue Europa et un club qui joue le maintien. Il y a Toulouse-Lille. Alors ça, c'est le fameux match à 6 points pour les équipes qui jouent le maintien. Et puis il y a Marseille-Nice, ce sera à 21h, une équipe qui joue le podium et voilà, et un club qui joue l'Europe également.
Très excitant.
Qu'est-ce qui vous excite le plus demain?
Tous les matchs. Je pense
en dehors de ça, mais fallait pouiller, mon gars, faut trancher.
Ce match Dijon-Guingamp, mais je pense que le Toulouse-Lille, ça va être très chaud, hein. Une équipe du sud, une équipe du nord, et alors là ça va être électrique du début au moment où l'arbitre va siffler le début de la fin jusqu'à la fin, tout peut se passer dans ce match-là.
Ouais, enfin, au niveau de la Ligue des Champions, c'est pas mal aussi. Hein. Quand on repense qu'à la 30e journée, Marseille avait 5 points d'avance sur Lyon, que Monaco était quasiment assuré d'être dauphin.
Pour beaucoup, même nous, on va le dire. Hein. Pour nous, on le disait il y a un mois, c'est pire. Hein.
Et là, la dernière minute de Paille qui marque au Vélodrome et derrière ce que ça enclenche aussi au-delà de l'aspect sportif. Mm-hmm. Et on voit qu'aussi au niveau mental, le sport en règle générale, hein, ça compte énormément.
Alors Cyprien Bétou vous a préparé le calendrier justement des trois équipes qui jouent le podium, à savoir Lyon, Monaco et Marseille pour les trois journées à venir. Alors pour Lyon, il y aura deux matchs à domicile. Alors un match à trois, c'est le prochain, ils termineront à Nice. Entre temps, il y aura un déplacement à Strasbourg. Pour Monaco, il y aura deux déplacements dans les trois prochains matchs. Le prochain est à Caen. Dernière journée, ce sera à trois. Entre temps, il y aura un match à domicile contre Saint-Etienne. Et Marseille, il y a un match face à Nice à domicile, un déplacement à Guingamp. Et ils termineront à domicile face à Amiens, sachant qu'entre temps, enfin, il y aura également la finale de Ligue Europa face à l'Atlético de Madrid aussi. C'est vrai qu'on en a souvent parlé de ce fameux calendrier qui était lourd, hein, pour Marseille également. Quand on voit le calendrier là, est-ce que vous avez un favori, vous?
Je pense Lyon. Lyon est le favori de ce match parce que Marseille a cette fameuse finale, mais surtout il joue en même temps ce match contre Nice qui va déterminer les deux derniers matchs pour les Marseillais. Alors que les Lyonnais, c'est vrai que en dehors de cette équipe de Saint-Étienne, je pense, pas cette équipe de Saint-Étienne, mais en dehors de ces matchs-là, c'est pas des gros matchs et surtout ils reçoivent deux fois à domicile. Et Monaco, par contre, eux, ils reçoivent Saint-Etienne.
C'est le plus dur à passer, c'est Nice.
Je pense que s'ils battent Nice, derrière, ils peuvent faire le 3-3.
Au moins dans les trois premiers.
Guingamp et Amiens, c'est les deux équipes qui viennent d'arracher des points au PSG, là, qui viennent de faire 2-2, hein, les deux. C'est les équipes souvent en roue libre, je sais pas, vous avez été joueur, mais et quand t'es en roue libre en fin de saison, t'es en mode détente, quoi.
Non, et puis Guingamp.
Bon, le PSG avait pas d'enjeu
non plus. Guingamp a battu Monaco et a fait match nul au Parc.
Ouais.
Guingamp.
Ouais.
Aussi.
Non. Alors qu'à Monaco, il y avait de l'enjeu pour le coup, c'est pas le cas du PSG. T'es un favori, toi, Seb, ou pas là
pour... Alors là, on parle pour la seconde place ou
Je dirais
Lyon. Je dirais Lyon. Ouais.
Lyon aussi.
Ouais.
Et qui vous voyez du coup éjecté des trois premières places là?
Monaco, moi.
Ah ouais, toi tu les sens pas là.
Ouais, ils sont vraiment sur une sale dynamique. En plus, là, il y a pas mal d'absents.
Alors attends, Falcao, Keita Balde, Jovetic, Sidibé, Georges, Benaglio, Adama Traoré sont blessés. Jemerson et Diakabi sont suspendus pour le match de demain à Caen. Côté Monaco,
ça plus ceux qui sont blessés psychologiquement.
Ça va être très dur, mais bon. De l'autre côté, tu as Caen à domicile, c'est une catastrophe aussi. Ils prennent pratiquement pas de points, ils ne gagnent pas les matchs à domicile. Donc là encore, c'est un match où, que ce soit la victoire, le nul ou la défaite, tout peut arriver dans ce match-là aussi.
Laurent Follet, disent quoi les tweetos, là, les internautes?
Ben écoute, en fait, ce qui les tient vraiment en haleine, les tweetos, c'est surtout la course au podium, qui représente quand même 53% de nos votants. À savoir que les gens sont vraiment motivés par cet avenir qui a pour Monaco, qui est de savoir s'ils vont rester sur les trois de devant, et si effectivement Monaco, qui n'a plus gagné depuis pratiquement un mois. Voilà, donc la dernière victoire de Monaco, c'était le 7 avril. Si Monaco va rester dans la course, quoi, tout simplement.
Et l'Europe et le maintien, ça les intéresse pas?
Alors l'Europe arrive à 32%, donc
c'est pas mal quand même.
C'est juste derrière donc le podium. À savoir que la course au maintien, ne requiert que 15%. Donc,
C'est assez impressionnant.
Après, ça dépend de la notoriété des clubs aussi, etc.
Oui, complètement. Bon, ça intéresse toujours du haut du tableau, ça c'est clair. Mais par contre, ce qu'on a appris, ce que j'ai appris récemment, c'est que la troisième place est qualificative.
Non, c'est pas ça.
Toujours pas. si.
Ah non, c'est pas ça.
Mais non, c'est ça ou c'est pas ça?
Ça dépend du classement.
Non, c'est sûr. C'est sûr apparemment.
Ouais.
La troisième place est qualificative. Si, la troisième place est qualificative directement pour la Champions League. Ça, il est là, c'est fait.
Non.
Ça dépend à quelle place finisse Marseille.
Oui, exactement. Ça dépend de Marseille. En fait, si Marseille termine, ne gagne pas la finale de la Ligue Europa,
oui,
et termine quatrième, si Marseille ne gagne pas la finale de la Ligue Europa tout court, d'ailleurs, non, il y a pas forcément, non.
Si, je crois, parce que si
la c'est parce que c'est l'Atlético.
Ouais, ouais. C'est oui, complètement. Ouais, ouais. Ouais. On l'a vu hier, ça. Bon.
Non, on l'a pas vu hier.
On en a parlé hier soir.
Ça. Ah ouais. Si. Non, c'est pas ça.
Si, c'est ça.
Non, c'est pas ça.
C'est ça.
Bien sûr que c'est ça. Accueillons Sacha, supporter de l'Olympique Lyonnais, qui nous a appelé au 32-16 Lyon, qui demain recevra 3. Salut, Sacha.
Bonsoir messieurs, bonsoir l'équipe.
Salut Sacha.
Alors bonsoir. Sacha, je te demande pas par quoi t'es le plus excité toi demain comme affiche, c'est forcément le match entre Lyon et Troyes. Comment tu les sens tes Lyonnais toi en cette fin de saison?
Bah je pense que ouais, il y a une deuxième place à accrocher, et ça c'est sûr qu'on, à mon avis, on va y arriver. Après voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est surtout la remise en question au niveau du système de jeu quand il y a eu la blessure de Fekir, à savoir le replacement de Depay, qui est vraiment intéressant puisque là il nous fait une fin de saison vraiment en boulet de canon. Et voilà, le seul truc qui peut peut-être nous porter un peu préjudice, c'est le fait de plus avoir Lopez dans la cage, parce qu'il faut pas oublier quand même que sur cette année, il nous fait quand même du bien et il nous sauve sur plusieurs matchs. Donc voilà, même si Gorgelin, je pense, est aussi compétitif, j'espère que ça va pas nous porter préjudice pour cette course à la deuxième place.
C'est important.
Ouais, puis à Marseille, il manquait Mandanda et pour l'instant Pelé fait plutôt le job.
Ouais, mais alors est-ce que Lyon a son Yoann Pelé?
Non. Je pense que Gorgelin est un bon gardien, mais pas au niveau de Yoann Pelé. C'est une
Beaucoup
très
moins d'expérience.
Non, on est d'accord. C'est surtout qu'il a joué il a remplacé Lopez une seule fois et sur le match qu'il fait, il fait pas un match dégueu. Hein. Mmh. C'est franchement pas mal, mais voilà. Après, Lopez reste Lopez. Et c'est vrai que ça reste aussi un patron vis-à-vis de sa défense, donc j'espère que ça va aller dans le même sens, parce que je sens que Gorgelin est beaucoup moins présent en termes de personnalité que notre gardien portugais, donc j'espère que ça ira.
Après, il reçoit une équipe de Troyes quand même qui est quand même très très faible, hein. Mentalement, oui, souvent ils mènent au score.
Ouais, mais les joueuses.
Oui, mais les joueuses.
C'est en défense.
Les joueuses, mais à chaque fois ils mènent au score et à chaque fois ils se font reprendre. Faibles.
On avait posé la question à Garcia ici, il me dit non, Ali, ma défense est très bien, regarde bien, je prends pas beaucoup de buts, mais en fait son problème c'est sa défense. Et on l'a vu progressivement.
Il y a beaucoup d'erreurs individuelles aussi.
Hein,
ça beaucoup va, d'erreurs individuelles.
Ouais. Ouais. Non, et puis il faut surtout pas oublier que le gardien dans une équipe, ça reste quand même un patron et ça reste une stabilité. Je pense qu'aujourd'hui, si Martello et Morel font une aussi bonne saison, c'est que derrière ils ont une sérénité, ils ont une sécurité. Donc
il n'est pas suspendu,
la même Marcelo. Chose avec Cordula. Oui, dans l'ensemble ça va quand même. Dans l'ensemble ça va.
Sacha, bon match à toi demain. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.
Merci à vous messieurs.
Bonne soirée Sacha. Tiens, juste une petite parenthèse également, j'en profite pour vous le dire. On avait prévu, tu sais, de relayer les propos de Rudy Garcia aujourd'hui en conf de presse, alors qu'il répondait à Bruno Genesio qui disait en gros vous pouvez pas vous plaindre de l'arbitrage lors de la demi-finale retour de Ligue Europa face à Salzbourg. Derrière, sur les réseaux sociaux, ça s'est enflammé aussi du côté de Lyon. Juste voilà, parce que ça commence à virer, on va le dire, au foutage de gueule de la part des acteurs du foot, avec nous médias qui forcément sommes pris à défaut dans le truc et qui relayons des choses comme ça. Donc voilà, après, si vraiment il arrive à se passer quelque chose de grave, faudra pas venir chialer et dire ah bah c'est de la faute de machin. Donc on a décidé de parler de foot ce soir et de pas relayer toutes les conneries qu'on voit ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Ça fera un peu de bien aussi de parler de football, parce que le coup de à l'arbitrage chez toi c'est machin, et ce soir on parle de foot. Ça veut pas dire qu'on relayera pas, parce que faut le faire également et ça fait partie de notre taf, mais là ça vrille un peu au grand n'importe quoi.
D'ailleurs Nicolas, si je peux me permettre, en fait t'as nos tweetos qui sont clairement agacés par cette situation, par Aulas et ses tweets et par
même s'il n'y a pas que Aulas, attention, oui. Moi je tire pas sur les bleus, les bleus blancs rouges ou les, tu vois,
non c'est, non, mais c'est effectivement nos tweetos sont agacés par cette façon de faire qui est cette guéguerre par les réseaux sociaux.
Le problème c'est qu'on les laisse faire, simplement on les laisse faire à un moment donné.
Mais tu sais que le débat, et nous on s'est un peu pris la tête avec certains auditeurs, certains tweetos également, c'est vrai que nous en tant que médias, on a aussi une responsabilité, mais on a aussi un rôle qui mérite, qui est quasiment philosophique. Nous, on se doit de relayer des informations, et ce qu'ils disent fait partie de l'information, mais jusqu'à où doit-on le faire? À partir de quel moment on devient complice de ça, et est-ce que finalement on ne rajoute pas de l'huile sur le feu? C'est un vrai problème aussi, c'est pour ça que je te dis ce soir, on a décidé de parler.
Dès l'instant où c'est pas en off, t'es obligé de relayer, de toute façon, ils sont en pleine conférence de presse, donc ils se cachent pas pour...
Là, il y a les réseaux sociaux qui en ont rajouté.
Depuis qu'il y a les réseaux sociaux, c'est des choses qu'on peut pas maîtriser, automatiquement, c'est surtout de la vision et la presse, elle est obligée d'en parler. Ce n'est pas que elle ne veut pas en parler ou elle essaie de cacher les choses, mais en tant que presse et surtout avec les réseaux sociaux, bien placé Laurent, hein, pour être obligé de donner son avis.
Du coup, on va parler de la course à l'Europe, qualification pour la Ligue Europa. Alors, il y a Saint-Etienne qui est cinquième, il y a Rennes qui est à un point, il y a Nice qui est à un point également. Et puis derrière, ils sont un peu plus loin, mais c'est pas encore mort mathématiquement sur Montpellier, pour Bordeaux et pour Nantes également. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Tiens, Cyprien Bétou, vous avez également préparé le calendrier de Saint-Etienne, Rennes et Nice pour les trois dernières journées. Saint-Etienne, deux matchs à domicile, Bordeaux et Lille, et déplacement à Monaco entre-temps. Pour Rennes, deux matchs à domicile aussi face à Strasbourg et Montpellier, et un déplacement.
Il te l'a enlevé.
Tu l'as enlevé, Cyprien.
C'est pas gentil, ça.
Bah voilà, merci Cyprien. Ah. Et un match à domicile, un déplacement, pardon, au Parc des Princes.
Sont durs, hein.
Et puis Nice, deux matchs, deux déplacements à l'extérieur. Marseille et Lyon. Et entre-temps, un match à domicile, ce sera face à Caen. Même question tout à l'heure. Qui pour vous est favori pour la cinquième place? Qui sera qualificatif pour la phase de groupe de Ligue Europa?
Quand tu regardes les trois équipes, ils ont trois matchs difficiles, les trois. Donc je vois aucun favori, sauf que Saint-Etienne a le vent en poupe et a le résultat qui lui donne raison. Donc je dirais, logiquement, Saint-Etienne.
Ouais, moi aussi, je pars Saint-Etienne. Même quand ils sont en difficulté, même quand ils jouent un peu moins bien, ils arrivent à soit marquer un peu contre le cours du jeu ou en fin de match. Et vraiment, eux, ils étaient vraiment très très loin pour le coup. Hein. Il y a eu le changement d'entraîneur. Ils étaient l'après Galtier a été compliqué.
13 matchs en défaite. Hein, c'est la série de Saint-Etienne hein, en cours. Hein.
Et là, ils ont vraiment rectifié le tir aussi avec le mercato hivernal. Et là, c'était des vrais recrues, quoi.
C'est Bordeaux hein, face à Saint-Etienne demain.
Ouais, mais ça,
c'est point d'écart.
C'est surtout parmi les trois équipes, c'est celle qui prend le moins de buts, Saint-Etienne. Et ça, ils peuvent s'appuyer ça pour gagner des matchs et prendre les trois points, ne serait-ce qu'avec 1-0. S'il y a une équipe qui peut tenir le score à 1-0, c'est Saint-Etienne. Rennes prend tout le temps autant des buts. Et concernant Nice, on n'en parle même pas. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils peuvent facilement prendre des buts. Saint-Etienne, non. C'est ce qui fait la différence entre
Et pourtant, Nice, c'est l'équipe la plus joueuse. On parlait d'équipe joueuse, mais c'est vrai qu'après, elle se découvre un peu.
C'est ça le problème. Mmh. Mais par contre, ces trois équipes, même Rennes, peuvent marquer à n'importe quel moment. Mais celle qui est la plus costaud défensivement, avec Subotic, Perrin et Ruffier, c'est bien Saint-Etienne.
Alors, on va revoir le calendrier, justement, de ces trois-là. Cyprien va nous le remettre, là, sur BFM Sport également. C'est marrant, vous citiez pas Rennes? Moi, les gars, je suis comme ça. Bah, j'y crois. Il y a un déplacement au Parc. Alors, on l'a vu que Rennes.
Hein? À Montpellier aussi.
Non, il joue à domicile face à Montpellier, Rennes.
C'est ce que je dis.
Ouais. Mais il y a Strasbourg et Montpellier.
Non, mais Rennes à l'extérieur et Strasbourg, ils vont être chiants.
Moi, les gars, je prends les paris, je vous dis que Rennes sera cinquième.
Ah, bah voilà, très bien.
Bim.
Mais à chaque fois, t'es pas déçu par Rennes?
Bah, ils sont imprévisibles, mais
Ah oui, ça t'a raison.
Déjà, ils tiennent plus la route que les autres années. À chaque fois, ils s'écroulent un peu avant.
Ouais.
Là, trois journées de la fin, ils sont encore là. Mais c'est vrai que on nous a posé la question entre le podium, l'Europa League, le maintien. C'est beau même pour notre championnat d'avoir encore ce type de match-là à trois journées de la fin. Ça pourrait être mort depuis un moment ou ça pourrait déjà être fini.
On a quatre points, c'est vrai. Entre la deuxième, troisième place, 5-6, maintien, c'est pas mal.
Vous le savez, hein, vous qui nous écoutez, qui nous regardez sur BFM Sport et sur RMC, hashtag RMC Live hein, pour réagir. Hein. Il est là, Lolo Fala. Ils disent quoi les tweetos là par rapport à ça là?
Pour l'instant, en fait,
ils disent rien. Okay, merci beaucoup, Lolo. C'est ça, non? Un peu.
C'est un peu ça. Oui.
Ah bon, pas mon pote, ils sont pas là. Donc, parraine, Saint-Etienne pour Sébastien Piocel, Saint-Etienne.
La même chose.
Voilà. Et Lolo, il dit quoi lui? Laurent Fala, vas-y, mouille-toi, mon pote, t'as le droit ce soir.
Saint-Etienne, Rennes, Nice.
Moi, bon.
Et peut-être même derrière, hein, peut-être que tu vois Montpellier, Bordeaux, j'en sais rien, moi.
Voilà.
Moi, j'ai un petit faible pour Rennes, donc.
Toi aussi?
Ouais, forcément.
Pourquoi ça vient d'où?
Son ami Jérôme.
Attends,
là.
En fait, Jérôme Thomas qu'on l'embrasse.
Bah, oui, et puis, tu vois, comme on le voit bien, je suis breton aussi, donc.
Ça veut rien dire, mon pote. Non, c'est ça, la France moderne. Hein.
Je suis breton de l'adoption.
2.0.
J'ai fait mes études à Rennes.
Ah ouais?
Ouais, donc forcément.
Sans déconner.
Eh oui.
C'est beau ça.
Ouais, ouais. Un enfant du monde.
Merveilleux. Sur ces belles paroles, on se revient dans quelques instants. La course au maintien également, ce sera l'un des enjeux de demain, l'un des enjeux des trois dernières journées de championnat également. On vous rappelle que vous êtes sur RMC, on est avec dans l'after Ali Benarbia. Non, c'est pas ça. Avec Sébastien Piocel et Laurent Fala, notre community manager. Hashtag RMC Live pour réagir. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Sébastien Piocel est avec nous ce soir. Laurent Fala, notre community manager, est avec nous en plateau également. Si vous êtes branché sur BFM Sport, si vous êtes branché beau gosse, il y a Lolo Fala au 32-16, bien entendu. Et Simone Rovera nous a rejoint. Si vous êtes branché les doigts dans la prise, comme ça coupe le cheveu, bien entendu.
T'as vu?
Ça va?
C'était l'électricité du match de ce soir. Après, on n'aime pas.
Oh, attends, bouge pas, ça c'est du teasing. Avant, je vous rappelle les résultats de la dernière journée de Top 14. La 26e journée de Top 14. La Rochelle a battu le Stade français 31-7. Victoire de Castres 54-3 face à Oyonnax. Le Loup a battu Montpellier 32-24. Brive a battu Bordeaux-Bègles, l'UBB 22-20. Je fais le mec qui s'y connaît, hein, l'UBB et tout. Clermont a battu Toulouse 36-26. Victoire de Pau, la section paloise, 38-26 face à Toulon. Et le Racing a battu Agen 42-13.
De toute façon, t'es tranquille au rugby, il n'y a que des victoires à domicile.
Ah ben, tenu. C'est souvent comme ça d'ailleurs, effectivement. Alors, donc, le classement, Montpellier est premier, deuxième le Racing, troisième Toulouse, quatrième Toulon, cinquième le Loup, sixième Castres, qui a deux points d'avance sur la Rochelle. Juste vous dire que Oyonnax va jouer pour le maintien, que Brive est relégué et que le Stade français est sauvé. C'est ça? J'ai bon là, Cyprien Bétou? Impeccable qu'il a dit, Cyprien Bétou. Tiens, on évoquait les matchs de demain de Ligue 1. On joue pas aujourd'hui, on le rappelle. Hommage aux victimes de Furiani. C'était il y a 26 ans, le 5 mai. Ça jouera demain. On était dans les matchs qui seront importants pour la course à l'Europe. Et on a Simon, supporter de Rennes, qui nous a appelé au 32-16. Salut Simon.
Salut les gars.
Salut Simon.
Alors Simon, salut. Gars, moi je me mouille. J'ai dit Rennes sera 5e à l'issue de la saison. Dis-moi que tu crois, Simon.
Ouais, je crois, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Non, mais c'est clair. Après, faut dédramatiser un peu le truc. Et puis, si tu vas en Coupe d'Europe, après, moi, je serais quand même sur fin sixième, je serais content parce que démarrer fin juillet, faire des tours préliminaires, ça permet de voir des matchs à ce moment-là de l'année où il y en a pas beaucoup, et puis voir ton équipe jouer contre des équipes de Macédoine et tout ça. Moi, c'est des choses qui me plaisent, quelque chose qui me plaît plutôt bien. Après, si on n'y arrive pas et qu'on finit septième, faudra pas tout jeter, même si ça sera comme à chaque fois, on tombera.
Ça, c'est l'esprit rennais, tu vois. Ben voilà,
c'est l'esprit rennais.
Même là, il perd une place.
Non, mais c'est l'esprit rennais.
C'est quoi, si j'étais convaincu que vous alliez y aller, bah laisse tomber. En fait, c'est mort, t'as raison, la Macédoine et tout.
Clairement, j'y crois. Parce que quand tu regardes le calendrier, demain, tu reçois Strasbourg, qui m'a l'air quand même pas très en forme.
T'as perdu contre Metz à domicile, donc Strasbourg, ça va.
Ils sont capables de taper le PSG aussi.
Tu l'as déjà eu, l'accident de parcours, on va dire, contre Metz. Tu l'as eu. Maintenant, tu sais que tu l'as eu. Donc, si demain on perd encore contre Strasbourg, là, bon, ok, je vous dirai, les gars, j'arrête tout, et puis c'est bon, on passe à autre chose, à l'année prochaine, et puis voilà. Mais demain, on bat Strasbourg, Saint-Etienne, c'est pas fait contre Bordeaux, Nice va pas aller gagner à Marseille, donc demain, on peut déjà être cinquième. Après, est-ce qu'on est capable de faire un exploit à Paris pendant que Saint-Etienne se fait peut-être battre à Monaco? Bah, pourquoi pas, et puis tu termines contre Montpellier. Enfin, le scénario, sur les trois derniers matchs, on a un scénario qui est largement possible pour être cinquième. Après, le problème de Rennes, c'est toujours pareil. Donc, je m'emballerai que à la 86e minute, si on met 3-0 contre Montpellier, que Saint-Etienne soit accroché contre Lille. On n'arrive pas, on peut pas s'emballer à Rennes. Vous pouvez pas demander à quelqu'un qui a perdu deux finales de Coupe de France contre son voisin Guingampais de s'emballer à 3 journées de la fin.
Eh hey Simon, on va te laisser aller te coucher parce que je vois que t'es pas bien. Je te souhaite une bonne nuit, Simon.
Bonne nuit à vous, les gars.
Merci, bonne soirée, Simon. Simon. Voilà, et donc toutes ces affiches de Ligue 1 qui seront à suivre demain. On fera pas la course au maintien puisque vous êtes que 15% à avoir voté pour eux. Donc c'est ça ou pas, Laurent Falin?
Tout à fait.
15%?
C'est ça.
Ça bouge pas. Attention, tu le confirmes dans l'oreillette.
Mais est-ce que t'es sûr, Laurent, que c'est 15%?
Ah oui, bien sûr.
Tiens, juste vous dire, ça vient de se terminer. Match nul 0-0 entre le Sporting et le Benfica. Le FC Porto est champion du Portugal devant sa télé, voilà, sur son canapé. Premier titre pour le FC Porto depuis août 2013. Bravo à Sergio Conceição, voilà, qui est l'entraîneur.
Il n'est pas sûr de rester.
Non, il est pas mal courtisé pour la saison prochaine. On va faire un petit tour d'Europe, c'est pour ça que Simone Rovera est là. Tiens, je vous donne juste, puisqu'on évoquait le Portugal et le titre du FC Porto, petite info qui vient de Russie, on connaît le champion. Le Lokomotiv Moscou a battu le Zenit cet après-midi 1-0. Et, attendez, ce mec est un spécialiste. Qui rentre à 10 minutes de la fin alors qu'il y a 0-0? Qui marque le but de la victoire alors qu'il y a 0-0? Eh ben, c'est un certain Eder. Voilà, le mec est rentré et il a offert le titre. Il est même pas titulaire au Lokomotiv et il rentre et
en fait, il signe le contrat
juste pour faire gagner des trucs. Voilà, c'est pas mal. Hein.
Après, il est en vacances toute la saison. Il est en vacances toute la saison et il joue le dernier match.
Voilà, donc le Lokomotiv, troisième titre de champion de Russie. On file en Angleterre. Alors il y a la course au maintien qui était complètement folle en Angleterre. Il y a notamment Stoke qui est relégué dès aujourd'hui, West Brom qui lâche pas et qui a battu Tottenham 1-0. Philippe Auclair est avec nous. On va pas parler de football malheureusement. Non. J'ai envie de dire avec Philippe Auclair. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Nicolas. Bonsoir Ali. Bonsoir.
Sébastien. Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir, ciao, Simone.
Ciao, ciao, Philippe. Alors, Philippe, très sale nouvelle qui est tombée cette soirée. Sir Alex Ferguson a été hospitalisé.
Oui, il a été opéré, même d'urgence, après avoir été victime d'une hémorragie cérébrale. Il se sentait pas bien apparemment ce matin du tout, et il a été emmené à l'hôpital de Macclesfield, semble-t-il, puis ensuite transféré à l'hôpital royal de Salford, où il a été opéré immédiatement. L'opération, si l'on en croit, et il n'y a aucune raison de ne pas le croire, le communiqué de Manchester United s'est bien, voire très bien passé, mais il est toujours en soins intensifs. On ne peut pas en dire beaucoup plus que ça, Nico, pour le moment. Je sais qu'il y a des rumeurs qui circulent, c'est tout à fait normal, sur son compte, sur le pronostic et tout genre de choses. Pour l'instant, il a eu une opération bien évidemment très importante, une hémorragie cérébrale, c'est très sérieux.
Ça peut laisser des séquelles aussi.
Ça peut laisser des séquelles. On peut aussi s'en remettre complètement, comme par exemple la femme de l'une des personnes qui a manifesté sa sympathie, Edwin van der Sar. Vous vous souvenez peut-être, elle avait été victime d'une hémorragie cérébrale et Alex Ferguson avait été à l'époque l'avait soutenu à fond. Et bon, les hommages sont absolument, enfin les hommages sont pas des hommages, c'est des messages d'encouragement plutôt à Alex Ferguson se multiplient sur en Angleterre et de la part de tout le monde. Il y a une, c'est vraiment la famille du football qui se rassemble ce soir autour de l'un de ces géants, et ça comprend même des gens qu'on appelle à tort, à mon avis, des ennemis entre guillemets, comme Liverpool par exemple, ou Manchester City. Et donc bon, tout le monde fait bloc autour de cette immense figure du football britannique, pas seulement anglais mais également écossais, souvenez-vous de ce qu'il a fait avec Aberdeen, en souhaitant que, à l'âge de 76 ans hein, quand même, il puisse revenir très très vite dans la place qu'il occupe tous les deux week-ends dans la loge présidentielle de Manchester United. Voilà, voilà où nous en sommes. Il n'y a pas d'autres infos pour le moment, Nicolas, mais tu peux t'imaginer qu'il y a énormément d'émotions en Angleterre autour de cette personne qui est non seulement très respectée, mais également très aimée.
Ouais, voilà, toute proportion gardée. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions en cette fin de saison en Angleterre. Demain, il y aura la dernière d'Arsène Wenger à domicile. Voilà, mais là, c'est vrai que c'est très lourd. Hein.
Oui, là, c'est une vie quand même qui est en jeu.
Bien sûr.
C'est une vie qui est en jeu, absolument. Et c'est vrai que c'est un week-end un peu particulier. Hein. Moins qu'on puisse dire, parce qu'on était déjà tous un petit peu comment dire, je serais pas dans un état bizarre, mais la journée de demain sera assez compliquée à vivre pour pas mal de gens, je pense, autour d'Arsenal.
Il y a les festivités de City aussi, alors c'est bien plus joyeux, mais
il y a beaucoup plus, il y a également le crève-cœur pour les supporters de Stoke. Qui voient leur équipe descendre, mais qui sont restés malgré tout. Je ne sais pas si vous avez vu ces images assez extraordinaires.
Ouais, tour d'honneur des joueurs et des supporters qui sont restés pour les applaudir.
C'était incroyable.
C'était assez incroyable avec Craig Butland, le gardien, qui était. Il avait beaucoup de mal émotionnellement. Il avait beaucoup de mal à supporter ça, et on le voyait s'incliner devant les supporters en leur disant merci, merci, merci. Mais
il a fondu en larmes, Butland.
Ouais, là, les joueurs de Stoke ont. C'est normal. Bon, une relégation. Je sais pas, Sébastien et Alice, si vous en avez vécu une, j'espère que non. Si. Vous l'avez vécu. Tous les joueurs qui en ont vécu une et à qui j'ai parlé m'ont dit, tu n'as pas idée, il y a pas pire. Il y a pas pire.
Mais qu'est-ce qui domine d'ailleurs, Seb? C'est quoi ces sentiments? Je sais pas, c'est de la honte, c'est de la tristesse,
ouais.
C'est de.
Ouais,
c'est
et puis de laisser le club en difficulté, les gens qui travaillent dans le club, parce que forcément, d'une division à une autre, on n'a pas le même train de vie, il peut y avoir des licenciements, là aussi. Et forcément au niveau sportif aussi, moi je l'ai vécu avec Bastia ma dernière année en plus en 2005 où bon aujourd'hui ils sont beaucoup plus bas pour d'autres raisons, mais c'était terrible. Entre-temps ils sont remontés, mais quand on est un club qui a pas énormément de moyens, on sait jamais quand on va remonter. Et puis même être catalogué dans une équipe qui descend, on n'arrête pas de le dire.
Il y a même des joueurs qui sont catalogués par exemple de Chanois.
Oui, exactement. Oui, il y en a qui vont gagner des titres régulièrement. Ouais,
il y en a qui est Chanois. Alors c'est terrible. C'était son 450e match. D'ailleurs, c'est pas fini pour lui. Hein, de Première Ligue aujourd'hui, c'est Mark Hughes. Alors qui était le manager de Stoke en début de saison et qui avec Southampton n'est pas encore sauvé. Hein, Philippe, c'est terrible. Il pourrait connaître deux descentes avec en une saison avec deux clubs, alors qu'il en a connu aucune dans sa carrière. C'est terrible.
Il avait été, juste pour signaler que Mark Hughes avait également été poussé en dehors de QPR avant que QPR soit relégué. Okay. En grand, une politique de recrutement absurde menée par le dit Mark Hughes.
Voilà. Mmh. Et ben c'est dit. Merci en tout cas, Philippe, d'avoir été avec nous.
Oui, juste une note plus légère. Ouais. Tu parles des joueurs qui sont des chats noirs. On en a deux en Angleterre qui sont des chats très 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 noirs. Ils s'appellent Nathan Blake et Herman Hyderson, l'Islandais, qui ont quand même cette chose à leur CV. Tous les deux ont 5 relégations de première ligue à leur palmarès. Oh,
c'est pas mal ça.
5.
C'est pas mal, hein.
Moi, je pense que c'est comme une compagnie, tu vois, qui veut licencier et faire une banqueroute. C'est le trouver. Alors là, eux, il y a, voilà, les embauches directes. Le président, il se débarrasse. Chairman.
C'est comme une montgolfière.
Voilà, ouais, exactement.
Lâcher du lest, c'est un peu ça.
Ah, il nous faut ces deux.
On va te lâcher, nous aussi.
Et à demain.
Merci, Philippe. À demain, merci.
Par contre, je verrais bien l'équipe de Lille, s'ils terminent et descendent, les supporters qui vont les applaudir, comme Stoke.
Mais tu sais que c'est pas valable qu'à Lille, hein. C'est pas valable qu'à Lille, hein.
Mais c'est vrai que le contraste, il est impressionnant.
Mais c'est marrant, alors, soit Eric Dimeco, avec qui on a fait les matchs de première ligue cet après-midi, ou Damien Comoli, qui connaît très bien la première ligue aussi, ils ont tous les deux dit la même chose. Ce serait impossible de voir d'un truc comme ça en France.
Après, moi, je peux comprendre aussi le désarroi, la déception des supporters.
Là, ils sont déçus.
Ouais, mais à Lille, je pense que, parce qu'on parle de Lille aussi,
ouais, c'est tout passé.
C'était la gestion, c'était le cas Bielsa, c'était tout ça, en fait, qui mettre au placard les historiques du club.
Les dirigeants.
Voilà, tout ça qui fait que c'est monté. Après, si c'est juste sportif, c'est sûr que bon, ils vont un peu loin.
On file en Italie dans quelques instants avec Simone Rovera. Putain, il y a un postillon qui est parti, mon pote, là, il doit fixer.
C'est pour Simone.
Simone Rovera.
C'est pour Simone.
Exactement. Ali Benarber, Sébastien Piocel, Laurent Fola. Lolo, t'as rien dit.
C'est vrai.
Merci Lolo, à tout de suite. C'est 32-16, flash, t'as rien de salaire.
RMC, le super football show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Ali Benarber, mais me dis pas top, il y a la radio en même temps. Il est fou, Cyprien Bétou, je suis un taré. Qu'est-ce qui se passe en coulisses, bien entendu. Sébastien Piocel, Ali Benarber, Simone Rovera, Laurent Fala, notre community manager, est également avec nous. Et Fred Hermel est là également. Ça va, Fredo?
Hola, chicos.
Ça va,
salut, Fredo?
Salut, les amis.
Tout va bien?
Oh, bah, moi, ça va, hein. Moi, je fais du 100%, là. J'ai deux équipes à Madrid. J'en ai une en finale Ligue des Champions, une autre en finale Ligue Europa. Oh, bon, ben.
T'en as pas en Coupe des Coupes?
Je demande le peu.
Ça Coupe des Coupes. Ah, il y en a plus, mais on aurait, t'inquiète pas, on aurait rétaffé en Coupe des Coupes aussi, hein.
Voilà. Puisqu'on parle de coupe, coupe de cheveux, Simone Rovera, la transition est toute faite.
C'est la coupe au bol.
Voilà. Oh, non, c'est pas, non, pas de bol, là. C'est coupe pas de bol, là, même, pour Simone Rovera. Je te l'annonce tout de suite. 36e journée de Serie A. Alors, victoire de Milan, 4-1 face au Hellas Vérone, qui est ton ex, d'ailleurs, Seb.
Ouais.
L'Hellas Vérone qui est relégué.
Ouais, bah ils font un peu l'ascenseur, hein. C'est dommage parce que c'est un club qui mériterait mieux. Il y a énormément d'engouement aussi. Après, bon, ils ont du mal à être dans la continuité. Ex-club aussi de Sarri, du coup. On en parlait tout à l'heure.
Maurizio Sarri, qui jouera demain le Napoli d'ailleurs, hein, face au Torino. La Juve qui jouait à Bologne ce soir.
La Juve qui jouait à Turin, à domicile face
à Bologne, pardon.
Face à Bologne. Victoire très importante, mais un scénario plutôt incroyable avec une Juventus plutôt muette pour toute la première mi-temps. Pas beaucoup d'occasions. On a une Dybala totalement transparent. Encore une fois, quand on l'attend dans les matchs importants, c'est pas lui qui trouve l'étincelle. Et après, à la mi-temps, Juve menée par un penalty plutôt logique, marqué par Simone Verdi. Et à la mi-temps, qu'est-ce que fait Allegri comme d'habitude? Il cherche un peu sur les bancs, qui fait j'ai rentré, voilà, Douglas Costa. Bim. Douglas Costa, en 20 minutes, d'échanger le match, accélération, 2 passes décisives. Vraiment, elle a mis les feux toute seule à la défense de Bologna. Et encore une fois, tu te rends compte que quand tu as cette richesse d'effectifs comme Allegri, le seul problème, c'est les gérer. Qui faire partir titulaire, qui remplaçant. Mercredi, il faut pas oublier, finale des Coupes d'Italie. Donc, Allegri avait déjà...
C'est quoi la finale?
Milan-Juve.
C'est pas mal ça.
Mercredi soir à Rome. Et donc, Allegri, qui pensait de ne pas avoir besoin de Douglas Costa, a confirmé que c'est cette année, surtout en cette fin de saison, c'est le Brésilien l'homme en plus. Deuxième passe décisive de la saison et 7 sur 12 sur l'arrivée quand il était remplaçant, donc quand il rentre en cours de jeu. C'est vraiment l'homme en plus de cette fin de saison. Malheureusement, elle n'a pas été décisive en Ligue des Champions, mais ça reste vraiment la grosse surprise. Mais c'est pas la première fois. Et je pense dans les passés avec Allegri, première saison d'Alexandro plutôt compliquée, première saison de Dybala pas extraordinaire.
Faut le temps de s'adapter aussi.
Les temps d'adapter au football italien.
C'est vraiment particulier.
Je crois que Costa va cartonner la prochaine saison.
T'as eu du mal à t'adapter aussi ou pas en Italie, Sébastien?
Alors moi j'ai joué que en série B, donc non, bon c'est sûr déjà quand on change de pays forcément il faut s'adapter la langue, il faut s'adapter aussi à ses coéquipiers.
Parla italiano.
Si, certo.
Wow.
Facciamo l'after italiano.
Ouais, per essere, voilà, parlare italiano.
c'est vrai que par rapport à la préparation des matchs, à la préparation même d'avant saison, il y a beaucoup plus de tactique. C'est complètement différent.
Après, ça change de Nantes.
Ça joue quand même. J'avais Gasperini à Crotone, qui était un adepte du 3-4-3 et qui m'est travaillé avec les jeunes.
Il Crotone de panno. La reazione nel Twitter, Lorenzo Falatto.
Dai, sur ça.
C'est-à-dire qu'en fait, tu vas rien foutre, toi. C'est-à-dire, t'es venu là, t'as montré ta gueule à maman et c'est terminé.
Je suis venu pour ça.
Non, mais d'accord, bravo.
Non mais écoute, en fait, la réaction des tweetos, les tweetos sont fatalement très à l'écoute de ce que tu dis, Nicolas.
Ouais, on est là pour ça. Ah, ouais. D'accord. C'est de la radio, ouais, jusque là tout va bien.
Non mais plus sérieusement, en fait, sur ce thème précis, j'ai pas beaucoup de réactions, en fait. Voilà.
Mais lance le thème.
Vas-y,
lance.
Par contre, pour ce qui est de Zidane, ça commence déjà à.
Fred Hermel, on appelle ça du teasing. Il va revenir sur la fameuse polémique du passi ou la fameuse aide d'honneur.
Oh non, mais je me casse, ça me gave.
Ah, c'est vrai? Eh ben, on va
faire. Attends, mais j'ai deux équipes en finale Ligue des Champions.
Oh, mais ça, t'as le temps d'en parler.
Il y a un classico, non, mais franchement.
Oui, justement, on va parler du classico. Eh
ben, attends, Nico, moi, je suis d'accord avec Fred.
C'est vrai?
Je m'en fous complètement.
Alors, okay, j'ai pas merde tout à l'heure avec le Lyon Marseille. Il n'y a pas de raison de le foutre avec le Barça Real.
Exactement. Allez, on y va.
Attends, finis avec Simonet.
Sérieux. On finit avec Simonet. C'est d'autant plus important que 11 mecs qui vont applaudir aux autres 11 mecs, quoi.
Enfin, donc on peut en parler.
Ça fait 22 mecs.
Simonet.
C'est ça. Sans compter les remplaçants.
Exactement. Déjà la page Napoli. Parce que c'est important. C'est demain.
Face au Toro.
Napoli, s'y perd. La Juve est champion d'Italie. Si Naples fait match nul, la Juve garde 6 points d'avant, avec, je pense, plus 14 en différence de but.
Donc c'est plié, quoi.
Et donc c'est pratiquement champion d'Italie. Naples qui devrait encore une fois faire jouer les mêmes. On avait parlé toute la semaine de la possibilité de voir Milik, finalement titulaire à la place de Mertens, qui est sur 8 matchs sans marquer un but. Donc, c'est pas lui qui a plombé la fin de saison de Napoli, mais ils ont manqué vraiment ce but en fin de saison. Et par contre, on devrait voir les mêmes 11 avec Kirkes à la place de Koulibaly qui avait été exclu la semaine dernière à Florence. Et match très important en clé Ligue des Champions à 12h30. L'Inter doit gagner à Udine face à l'Udinese. Sinon, sa course pour la Ligue des Champions, pour la dernière place qui reste, ça risque d'être déjà terminé demain.
On file en Espagne, mon Fredo, qui est toujours là. Demain, il y a donc le Classico, tu l'as dit, le match entre le Barça et le Real, avec un Barça déjà champion. Alors, tu veux pas en parler, mais j'ai vu qu'en Espagne, on en parlait encore de cette histoire de haie d'honneur qui sera pas faite par les Madrilènes. Hein.
Oui, alors oui, en plus j'étais à la conférence de presse de Zidane ce matin.
Mais il l'avait déjà dit, cela dit.
Mais oui, parce qu'on lui a posé la question, c'est-à-dire qu'il y a une tradition qui veut que quand on va expliquer ce que c'est que quand une équipe espagnole gagne un titre national ou international, le match suivant, l'équipe qui rencontre l'équipe en question fait une haie d'honneur et applaudit les joueurs quand ils sortent des vestiaires. En décembre dernier, le Real Madrid à la mi-décembre gagne le Mondial des clubs et le match après, c'est à Bernabéu le Classico contre le Barça. Et là, le Barça décide de ne pas faire le passillo, enfin le haie d'honneur. Donc Zidane considère que le Barça a rompu cette tradition et que eux vont pas faire le passillo, puisque je vous rappelle, le Barça était champion la semaine dernière. C'est le match suivant. Si ça avait été dans deux semaines, la question se posait même pas, quoi. Tu vois, voilà. Donc c'est une fausse polémique pour alimenter les gazettes en Espagne. Et je peux vous dire sincèrement que Valverde, entraîneur du Barça, qui est vraiment un mec bien, du temps où il était à Bilbao, je crois, il avait fait cette haie d'honneur au Barça qui avait été champion du monde des clubs et que lui, il aurait bien voulu le faire en décembre, sauf que dans le vestiaire, certains joueurs n'ont pas voulu. Et je crois que ça l'a gêné plus qu'autre chose. Et Zidane, c'est pas la décision uniquement de Zidane. Hein. C'est Zidane et puis les cadres du vestiaire qui ont décidé de pas faire ça. Mais je trouve que c'est une anecdote qui n'a rien. Parce que, par exemple, quand vous entendez Zidane parler d'Iniesta encore aujourd'hui et de dire tout le respect et l'admiration qu'il a pour lui, je pense que c'est beaucoup plus important qu'une haie d'honneur ou pas. Voilà.
Et Zidane il est dit, important du coup ce match ou pas finalement?
La vraie question elle est là. Si tu écoutes les supporters du Real, il faut envoyer le Castilla, c'est-à-dire l'équipe B. D'ailleurs, parce qu'il y a une finale de Ligue des Champions dans 3 semaines et qu'il faut prendre aucun risque.
Il va le faire, ça?
Bah, bien sûr que non. Il va mettre la meilleure équipe possible demain. Pour une raison. Et lui, il reconnaît. Et d'ailleurs, ce matin, il y avait, par rapport à ce que représente un classico, il y avait peu de journalistes. Bon, c'est beaucoup quand même, hein. Il y a toujours beaucoup de journalistes au Real, mais par rapport à ce le nombre de caméras, etc., qu'il y a le jour, la veille d'un classico, aujourd'hui, c'était presque comme si c'était un match de coupe contre une deuxième division ou une troisième division. Et Zidane dit oui, c'est un peu décaféiné comme ça. C'est évident, mais je peux vous dire que demain, au moment du coup de sifflet initial, eh ben, les mecs seront à fond d'or classico, comme s'ils jouaient une finale de Coupe du Monde. Parce que, voilà, il y a une rivalité, et puis parce que ce sont des professionnels, et qu'un Ramos ou un Cristiano Ronaldo, ben, ont qu'une envie, c'est de gagner au Camp Nou, quoi. Voilà, c'est, il y a, d'un point de vue comptable, il n'y a que le Real qui joue un petit peu, c'est d'attraper la deuxième place, quoi. Voilà. Qui change rien parce que les quatre premiers de la Liga ils vont directement en Ligue des Champions, c'est purement de l'émotionnel, de l'honorifique, voilà.
Et il a préparé la finale aussi.
Tiens, et Fredo, juste
oui parce que c'est un match compétitif, donc puis après ce sont les professionnels, hein, les gars, vous l'avez été vous, hein, donc on ne lâche pas un match, voilà, et encore moins un match au Camp Nou.
Fredo, je disais des déclarations de Luis Suarez à une radio uruguayenne, alors
mais on la connaît pas trop cette radio là.
Alors Radio Rincón, c'est ça?
Ouais, mais bon, on la connaît pas trop.
C'est-à-dire?
Bah, on sait pas,
T'as peur que ce soit pas vrai? Parce qu'en gros, il annonce que Griezmann arrive au Barça.
Enfin, après, mais le problème, c'est qu'on a pas réussi à réécouter les bandes de ça. On est plusieurs à chercher. On a que la transcription qui est arrivée sur les sites internet des journaux espagnols. Mais on n'a pas, les questions, on n'a pas le contexte. Voilà, on a que du brut de déclaration. Difficile. Bon, après, que Griezmann ait négocié avec le Barça, oui, qu'il soit proche du Barça, oui, sauf que le Barça n'a pas les moyens de payer Griezmann, pour une raison très simple, qu'on appelle la limite salariale du fair play financier. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, hein, il faut qu'il y ait un pourcentage, on peut pas dépasser un certain pourcentage de masse salariale par rapport au budget global, et le Barça est déjà limite aujourd'hui, notamment avec Messi qui leur coûte en gros un petit 100 millions d'euros par an. Donc le grand problème c'est qu'il y a de gros salaires au Barça, et qu'aujourd'hui Griezmann qui est déjà à 10 millions nets, c'est-à-dire à 20 millions bruts, et qu'Atletico lui propose 20 millions net, ça coûterait très très cher de faire venir Griezmann. Et Griezmann, la semaine dernière, a déclaré après le match Arsenal qu'il est en train de parler d'une prolongation avec l'Atletico. Donc moi j'ai eu des gens proches du joueur aujourd'hui, la décision n'est pas prise, mais la tendance c'est
qu'il reste.
Bah oui, plutôt quand même, parce qu'il y a un problème financier énorme au Barça, et surtout Griezmann veut absolument que son avenir soit réglé avant de partir au Mondial. Et j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus simple pour lui de prolonger l'Atletico que d'attendre que le Barça... Ah
bah c'est clair que là, s'il faut qu'il se fasse un transfert, je sais pas combien de dizaines de millions d'euros avant le Mondial,
oui,
ça va être dur.
Parce que après, c'est pas le simple financier pour le Barça ou le Real, ils n'ont pas le problème d'argent qui arrive de l'extérieur, parce que de par leur statut, ils ne peuvent pas, il n'y a pas d'actionnaire. Il n'y a pas d'argent qui arrive de l'extérieur.
C'est des associations, on le rappelle.
C'est des associations, donc, qui, tout l'argent doit être réinvesti au sein du club, et ils peuvent avoir des sponsors, mais il n'y a pas de propriétaires. Les propriétaires, c'est les 80 000 sociaux sur elle, les 100 000 sociaux sur Barça. Par contre, ils peuvent avoir un problème par rapport à la masse salariale. Et c'est le gros drame du Barça à l'heure actuelle, c'est que Messi bouffe énormément, quoi.
Fredo, il reste 20 secondes. J'ai vu la une de Marca là qui annonce que Neymar veut jouer avec Cristiano. Alors, il relance encore la rumeur de Neymar au Real. Pipo?
Non, bien sûr que non, c'est pas Pipo.
D'accord.
Puisque je l'ai dit depuis des mois que le Real veut Neymar, et que le père de Neymar n'a pas cessé de parler avec le Real depuis la signature du joueur brésilien au PSG.
D'accord. Alors là, qui est revenu, hein, qui a repris l'entraînement aujourd'hui au camp des loges. Ouais. Neymar qui a atterri hier au Bourget, et qui aujourd'hui il a participé au décrassage avec les joueurs qui ont fait match nul hier face à Amiens.
Attention, je ne dis pas que... Je dis que le Real veut Neymar, ouais, et que le père de Neymar parle avec le président du Real et les dirigeants madrilènes. Ça, j'en suis sûr.
Okay. Merci Fredo.
Adieu.
Bonne soirée à toi. Merci beaucoup, Fredo. Tiens, une petite info également. Vous savez que Tony Chaperon avait été élu meilleur arbitre de Ligue 1 de la saison par ses pairs. Lui qui avait été suspendu 8 mois après le croche-pied à Diego Carlos lors d'un match entre Nantes et le Paris Saint-Germain. L'UNFP avait décidé d'annuler la remise du trophée à Tony Chaperon. Et aujourd'hui, le syndicat des arbitres, eh bien, a réagi. Il a publié un communiqué en se disant très attaché à l'expression démocratique de ses adhérents qui se sont massivement exprimés. Vous savez que l'UNFP parlait d'une provocation avec cette décision et ce vote. Ce vote exprime un mécontentement des arbitres vis-à-vis de la sanction disproportionnée infligée à Tony Chaperon, a expliqué le syndicat des arbitres.
Mais qui
aujourd'hui
vote?
Les arbitres.
Les arbitres.
Donc c'est voilà.
Donc c'est pour protester.
Voilà. En fait, pour protester, ils ont dit tiens, on n'est pas content.
Pourquoi ils ont pas fait grève alors? Je sais pas moi au moment où ils arrivent, je sais pas.
Eh ça va, gars, on peut déjà plus prendre le train, on peut plus prendre l'avion. Tu veux pas non plus qu'on puisse plus jouer au football?
Non, ils auraient pu faire grève du championnat, ça aurait été plus marquant.
Non mais tu peux pas l'élire meilleur arbitre avec la faute qu'il a fait de ce que aucun arbitre pendant toutes ces années ils ont fait.
Merci beaucoup Sébastien Piocel, c'était bien. Hein
ouais, c'était bien.
Non, t'auras le mot de la fin. Ali Benarbia, merci.
Grazie mille, Simone Rovera.
Ciao, buonanotte.
Un tweet pour finir, Laurent Falloir.
Ouais, juste, en fait, les Twittos ont décidé de me sauver ce soir. Parce que, il n'y a pas eu beaucoup de tweets. Donc, j'ai Petit Prince du Parc qui me dit que lui, il vend sa polo noire. Donc, si on veut, on peut le contacter en MP, voilà, et puis il espère que ce tweet soit lu. Donc, voilà, il est.
C'est vrai que j'ai vendu une bagnole, moi, grâce à la fin. Je jure que c'est vrai. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes les équipes éditoriales et techniques. Bisous, à demain. Ciao.
RMC, le super football show, l'After Foot.